OK, podcast numéro 4, Spectre avec GC. On a aujourd'hui Léonard Sauvé qui est candidat au doctorat en bioinformatique à l'Université de Montréal. Il travaille au laboratoire de Sébastien Lemieux à l'IRIC, qui est l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie à Montréal. Bienvenue, Léonard.
Bien, merci de m'avoir ici.
Tu veux-tu préciser un peu plus, dans le fond, vitement ta recherche à l'IRIC, dans le fond?
Donc là, moi, je viens de commencer mon doctorat en septembre avec Sébastien Lemieux. Je suis en bioinformatique, donc ma recherche, moi, elle va s'orienter beaucoup sur les prédictions qu'on peut faire avec des profils génétiques sur des maladies. Là, en ce moment, on travaille sur les leucémies, okay. En ce moment, dans le cadre du projet Leucégène. Donc, right. Leucégène, c'est une initiative qui a été lancée par l'IRIC de récolter beaucoup d'informations génétiques sur des patients en vue de comprendre mieux les maladies du sang, les cancers du sang.
Ouais.
Puis finalement, pouvoir faire des pronostics sur la guérison puis sur les traitements.
Mais parce que là, l'IRIC, est-ce que l'IRIC est spécialisé sur la leucémie ou c'est vraiment tous les cancers qu'ils recherchent?
Normalement, les chercheurs ils vont s'intéresser à plusieurs types de cancers.
Okay.
Sauf qu'en ce moment, les leucémies, c'est un bon, disons, modèle de cancer à étudier.
Parce que, en général.
Parce que c'est un cancer qui est assez facile à... On a une bonne capacité à aller chercher les cellules cancéreuses dans les cancers du sang. On a juste à faire un prélèvement sanguin.
Okay.
Puis c'est un cancer qui est relativement facile à traiter. Donc, disons qu'il y a des taux de succès qui sont assez grands.
Ouais.
Au final, les nouvelles techniques de traitement du cancer peuvent être facilement appliquées aux leucémies. Donc, okay. Les chercheurs aiment bien étudier ce type de cancer-là.
Cool. OK, ben avant qu'on aille trop profond dans l'IRIC et la recherche, dans le fond, j'aimerais ça que tu expliques un peu qu'est-ce qui t'a poussé à venir à débuter ton doctorat, dans le fond. C'est pas quelque chose que tout le monde fait souvent. Puis est-ce qu'il y a des étapes claires que tu vois dans ton passé qui ont mené à ça? C'était ton rêve d'enfance? Comment tu t'as décidé ça?
Ben, c'est sûr que un doctorat, c'est un gros contrat. C'est 4 ans au minimum. Il y a des gens, des collègues que j'ai vus le finir en 7 ans. Ça peut être très long. C'est énormément de travail au final. Puis l'avantage par rapport à un autre diplôme, c'est que c'est ton projet. C'est toi-même qui détermine ce que tu fais au doctorat. Ça a été pas mal mon incitatif à en faire.
OK.
C'est de mener à bien un projet qui est plutôt personnel.
Puis mentionner dans le fond, parce que tu n'as pas fait ta maîtrise, toi, tu as sauté du bac au PhD, qui se fait couramment ou pas trop?
Disons que ça se fait de plus en plus, mais okay. C'est assez rare parce que les gens, en général, le font étape par étape. Donc, ils finissent leur bac, puis l'étape, logique d'après.
C'est ça, on apprend quasiment
la maîtrise.
Ouais, puis je suis pas mal certain qu'il y a beaucoup de... Ben, en tout cas, moi, avant de te connaître, je pensais que c'était obligatoire. Là. C'était peut-être par... justement parce que la société, c'est ça, c'est des étapes. 1, bac, 2, maîtrise, 3,
voilà.
PhD.
C'est ça serait l'étape logique. Par contre, en fait, je savais déjà que j'allais faire de la recherche. C'était ça mon rêve d'enfant.
Ah, ouais.
Pour être précis, c'était d'être chercheur. Moi, ça a été
depuis, comme tu te souviens, mettons, t'avais quel âge là, quand tu disais « fuck, j'aimerais ça faire de la recherche
». Je dirais que vers peut-être début du secondaire.
Wow, 12
ouais.
ans.
Ouais, ouais.
Puis pourquoi ta famille fait ça?
Non, mais en fait, mon père travaillait à l'Université de Montréal. Il était journaliste, donc aux communications.
OK.
Il travaillait avec les chercheurs. Il leur posait des questions. Donc, il allait rencontrer les chercheurs, leur demander ce qu'ils faisaient comme recherche courante, puis leur parler de la façon la plus claire et nette possible pour le grand public. Ça a été ça son boulot. Donc, il a toujours été dans le milieu de la recherche.
Ouais.
Puis moi, bien sûr, j'ai été un peu mêlé à ça. Puis finalement, c'était un peu le métier que je m'enlignais, tu sais.
OK. Puis ton bac a été fait en?
Donc moi, mon bac, c'est un bac en bioinformatique. C'est un bac qui existe depuis 15 ans, à peu près une quinzaine d'années, à l'Université de Montréal. Il existe aussi à Sherbrooke et à l'Université Laval, Québec.
Qui existe depuis 15 ans, une quinzaine d'années?
Ouais, seulement.
Puis, on va évidemment un mélange de biologie et informatique. Tu dirais le split est à 50-50 environ?
Ouais, pas mal. Parce que tu as besoin de beaucoup de connaissances en biologie, surtout en génétique. Donc moi, en fait, quand j'ai fini mon cégep, je m'enlignais soit vers la biochimie ou soit vers la bioinformatique, que je connaissais déjà l'existence. Ouais. Ça a été un avantage parce que c'est très méconnu, mais on a beaucoup d'opportunités finalement en sortant du bac en bioinformatique.
En sortant du bac?
Oui. Il y a même des gens qui finissent leur bac et qui vont réussir à trouver un emploi.
Puis est-ce que c'est contingenté ou?
Pas du tout. Ça prenait une cote d'à peu près 26.
C'est business, c'est ça à peu près? Ouais.
C'était, ouais. C'était beaucoup moins difficile de rentrer finalement en bioinfo que de rentrer à la Polytechnique.
Right. Ah, on peut en nommer, là, ouais, c'est ça.
Mais c'est ce qui donne à peu près un background pareil finalement que des écoles spécialisées parce qu'on avait des cours assez difficiles d'informatique. C'est disons le gros défi est plutôt là,
ouais.
C'est d'avoir la base en maths et en informatique qui nous permet de faire nos analyses sur la biologie.
Ok. Ok. Puis toi dans le fond en sortant de là, ah oui, puis tu disais au PhD dans le fond au doctorat, tu as plus de liberté quant à la recherche que tu veux prendre. Relatif à la maîtrise, parce que je sais qu'à la maîtrise, tu décides ta recherche, mais souvent les gens, il faut que ce soit en lien avec les recherches d'un professeur, mais j'imagine au PhD aussi, jusqu'à un certain point.
Oui, tout à fait. En fait, c'est sûr qu'il y a un laboratoire qui va t'accueillir, puis c'est le chercheur qui va te donner tes grandes lignes de recherche. Par contre, dans les détails, c'est toi qui prends en charge toutes les manipulations. En fait, ce qui est drôle, c'est que là, au doctorat, on s'attend à ce que tu sois plutôt autonome. On s'attend à ce que tu aies tous les acquis nécessaires pour que tu puisses finalement prouver que tu es un bon chercheur. C'est la seule chose qu'il va falloir que tu fasses au terme de tes 4 ans, c'est de prouver à la communauté scientifique que tu as assez de valeur pour avoir ton propre labo.
Okay.
Non, en fait, mon directeur de recherche me disait, normalement, après ton PhD, on te remet le trousseau de clés d'un laboratoire. C'est okay. Vraiment, si tu deviens...
Mais attends, mais il y a combien à chaque année qui gradue de ce programme-là? Parce qu'il y a seulement X nombre de laboratoires à donner?
Oui, tout à fait. Non, bien sûr, il va falloir peut-être que tu fasses un post-doctorat. C'est une spécialisation de plus, mais en général, c'est un vrai boulot. Là. Rendu là, tu es rendu un chercheur à plein temps.
OK.
Quand tu fais ton post-doc. Mais, donc, ça prend beaucoup d'études avant de devenir vraiment chercheur, d'avoir son poste dans une université. Et c'est très difficile aussi. Il y a beaucoup de... C'est très contingenté, ça.
Right. Tout le monde veut être prof, ouais. Puis il n'y a pas beaucoup de... Surtout de full professeurs. Il n'y en a pas beaucoup de postes comme ça dans les universités.
Très peu. Très peu.
Puis tu penses tout domaine confondu, c'est difficile?
Ah oui, absolument. Là, l'affaire, je dirais peut-être qu'en bioinformatique, encore là, on a un peu plus de chance parce que c'est un domaine qui est relativement nouveau.
Ouais.
Donc, les universités commencent à... créer des postes de professeurs dans ce domaine-là. Okay. Alors que dans d'autres domaines, on ne fait que remplacer.
Right. Comme à l'Université de Montréal avec le nouveau building, ben, qui est un peu, c'est infirmière, mais vous avez un méchant gros morceau de cette affaire-là pour votre recherche.
Donc là, pour le campus Outremont, c'est de ça que tu parles? Ou,
Non, moi je parlais au pavillon Jean Coutu.
Ah oui, voilà, ben, le pavillon Jean Coutu, lui, a été bâti en 2004. Puis on a l'école de pharmacie qui est dedans. Et il y a l'institut de recherche où je travaille. Donc, ouais. Il y a l'IRIC. Il est séparé en deux.
Ouais.
Puis, donc, on a créé cet espace-là qui est complètement dédié à la recherche.
Fait que ça montre qu'à la limite, l'Université de Montréal voit un futur assez sérieux dans ce domaine-là.
Certainement. Et beaucoup d'universités commencent aussi à faire ces pas-là.
OK.
Parce qu'ils se rendent compte, en fait, finalement, que c'est beaucoup plus... c'est très payant pour un institut de recherche de faire... de mettre de l'argent dans des ressources informatiques, des laboratoires informatiques, parce que la recherche se fait très vite dans ce milieu-là, à des coûts qui sont beaucoup moins élevés que ce qu'on aurait en biochimie.
Right, pas de hardware.
Mais exactement.
À la base, ouais.
Par exemple, nous, notre labo, on a un financement d'un wet lab. Un wet lab, c'est un laboratoire avec les pipettes, les éprouvettes, avec les tissus. Donc, un laboratoire de biochimie, concrètement, on a un budget qui correspond à ça.
Ouais.
Sauf qu'on le réinvestit totalement dans les machines et dans avec des étudiants. Donc, finalement, on se retrouve avec de l'équipement super haute technologie,
ouais.
Et beaucoup d'étudiants qui viennent... dans le laboratoire. Donc, on a un milieu super dynamique qui est en très bonne santé, finalement, avec des ressources qui sont équivalentes.
Right. Mais là, dans le fond, fait que évidemment, la bioinformatique leverage le computing et tout ça, mais donc la recherche fondamentale dans ce domaine-là, avant que les ordinateurs arrivent, ça se faisait quand même.
Oui.
C'était slow, puis à la main, puis dans des wet labs, comme tu dis.
Ben, bien sûr. Hein. Donc, en fait, la bioinformatique est née concrètement avec l'avènement de la génétique moderne.
OK.
Donc, ça a été vraiment, on a créé, on a inventé la bioinformatique en même temps qu'on a développé les moyens de séquencer des génomes, donc séquencer de l'ADN.
Si on parle de quelle année environ, les peut-être pas mainstream, mettons, que c'est devenu un peu.
Ben, on parle de la découverte de l'ADN comme on la connaît, c'est en 1950.
Comme on la connaît, parce
C'est-à-dire avec
qu'avant.
la forme de double hélice,
OK.
avec Watson-Crick. Et donc, finalement, on a connu une explosion en génétique à partir des années 50.
Ouais.
Puis, on a commencé à bientôt être capable, dans les années 90 à 2000, de séquencer un être vivant, c'est-à-dire de connaître tous ses gènes, tous les fondements biochimiques qui composent son existence, et à commencer à les étudier et les caractériser. Pour faire ça, il a fallu mettre au point des outils informatiques, parce qu'on ne pouvait plus le faire
Ouais.
avec des méthodes conventionnelles à la main. J'ai eu un professeur d'ailleurs qui m'a enseigné, qui était un précurseur de la bioinformatique, et lui, il faisait ses séquençages, donc il séquençait des bactéries qui ont un relativement très petit génome
Ouais.
comparé au nôtre. Mais juste ça, c'était des heures de travail parce qu'il fallait qu'il récupère tout son génome sur une espèce de gel d'agarose, qui est une sorte de polymère, et qu'il lise chacune des
Au
lettres de notre.
microscope.
Il les lisait à l'œil, en fait. Et il prenait son stylo et il mettait chaque lettre A, T,
J'ai
G,
C.
C, T, et ils écrivaient comme ça, ils suivaient. Il y avait même un bip sonore dans les années où la technologie augmentait pour le séquençage, mais on parle de technique archaïque où il fallait chaque lecture de base qui était lue, il y en avait peut-être 10 000, faisait un certain son et le technicien qui prenait en note la
Oh my God.
lettre se reconnaissait là-dessus. Donc on partait de très loin
Ouais.
pour faire de l'analyse génétique. Et donc maintenant, bien sûr, ça se fait à la chaîne, en massivement, avec des puissants ordinateurs
Puis
et
à faible coût,
à
ben
faire très
relatif,
faible
ouais,
coût.
c'est ça.
On dit souvent, en fait, on rappelle souvent ça, en fait, c'est très étonnant, vous allez voir, le premier génome humain à être séquencé a coûté 1 milliard de dollars. Et
OK.
ça a pris une initiative de plusieurs pays ensemble pour le
Un
faire.
peu comme la lune.
C'était une course à la Lune.
Ouais.
Puis même que c'était littéralement ça, on avait une compagnie privée qui se battait contre le gouvernement américain pour la course
Ah ouais.
pour séquencer le génome humain.
Puis qui l'a eu?
C'est le public qui a gagné.
OK.
Donc c'était la compagnie Celera contre tout ce qui était
Le gouvernement. Qui faisait ça, il y avait sûrement un organisme dédié à ça, genre.
Oui, c'était plusieurs laboratoires de recherche publique qui étaient chapeautés par une grande institution publique là, américaine qui finançait différents laboratoires. Puis chacun de ces laboratoires s'occupait d'une partie du génome de l'humain et le mettait dans une grande banque.
Fait
Et finalement, la compagnie privée allait
que
pas
c'était une
aussi vite.
course, c'était morceau par
C'était
morceau.
littéralement une course.
Ouais, t'avais le pourcentage, eux ils ont 12%, 14%, puis
Voilà.
ok.
Puis même que c'est très facile à trouver la contribution de chaque pays. Les États-Unis ont contribué à plus de 60% là,
Ok.
de séquencer le génome humain. La France en a fait une partie, l'Angleterre, l'Allemagne. Le Canada, pas beaucoup. Le
Soyons honnêtes.
Canada, ça a été.
Puis c'est à quelle année ça s'est fini cette
Donc c'est
course-là?
ça a été de 90 à 2000.
Oh my God, c'est récent, hein? C'est quand même
C'est
fou.
seulement depuis quelques dizaines d'années qu'on connaît littéralement notre propre génome
Mais il y a
humain.
quand même une bonne limite, me semble, de ce que je lisais à le fait qu'on connaît, on peut pas expliquer beaucoup de choses tout de même, right? C'est qu'on sait quoi et où, mais là après, c'est là que le vrai travail commence.
Exactement. C'est comme aller découvrir, par exemple, les premiers découvreurs de l'Amérique, ils savaient qu'il y avait de la Terre là. ils savent pas nécessairement ce qu'il y a dedans, c'est les détails en fait. Ils savent juste la topologie,
Ouais.
les grandes lignes, mais ça n'expliquait rien en fait. Parce que c'est ça là, qui est complexe avec la génétique humaine, c'est que on connaît l'alphabet, on connaît les bases, on connaît qu'est-ce qui l'écrit. C'est comme si on avait un grand roman devant nous, avec des lettres qui n'avaient aucun sens entre elles, puis c'est de trouver du sens à tout ça. Qu'est-ce que veut dire chaque mot? C'est quoi leur relation entre eux? Donc ça, c'est étudier concrètement la génétique.
Right. Puis dans le fond, donc, l'IRIC utilise ça pour évidemment, pas résoudre des maladies, voyons comment on dit,
Ben, aider à
aider
traiter,
à trouver des remèdes ou des...
tout à fait. Donc l'IRIC, c'est un institut de recherche qui est plutôt clinique. C'est un institut de recherche qui essaye de trouver vraiment des solutions à des maladies.
Ok. De renommée
Oui.
mondiale, il me semble que je lisais que c'était une des sérieuses au monde en termes
Oui.
de papier, de output, dans le fond.
Oui, c'est un institut qui va très bien. Le docteur Sauvageau récemment a publié dans une revue, a publié dans Science pour une molécule qu'ils ont trouvée en 2014, donc qui aiderait à carrément endiguer certains cancers. Donc il y a vraiment des remèdes, des traitements qui sont trouvés dans cet institut-là. Ça avance très vite cette recherche-là quand elle est bien faite, quand on a le temps, l'énergie, les bonnes ressources,
Ouais.
au final, ça peut vraiment aller très loin.
Ok. Puis à travers ça, donc là, toi plus particulièrement, ta recherche en transcriptomique,
Oui.
je pense qu'on peut prendre un bon 5-10 minutes pour que tu expliques qu'est-ce que c'est.
Donc la transcriptomique, tu sais, je parlais tout à l'heure de... Le génome humain, c'est un grand roman avec des lettres qu'on connaît, mais avec des mots qu'on ne comprend pas. La transcriptomique, en fait, ça rentre aussi dans cette espèce d'image-là. C'est de comprendre le rôle des gènes. Grâce, pas seulement à la topologie du génome, mais surtout à l'expression instantanée de certains gènes à un moment donné. En fait, je m'explique, dans notre corps, on a plusieurs cellules, plusieurs centaines de millions de cellules. Ces cellules-là ont toutes quelque chose en commun, c'est qu'elles ont toutes le même ADN. Elles ont toutes absolument le même noyau qui renforme la même information. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que ta cellule de peau va être une cellule de peau et puis celle du foie va être une cellule de foie?
Bonne question.
Effectivement, c'est justement quels gènes sont exprimés. C'est lesquels qui ressortent. Parce que bien sûr, on ne les exprime pas tous, nos 22 000 gènes.
Mais ils sont là,
Ils sont tous là.
partout.
Ils sont partout, écrits quelque part. Par contre, c'est pas comme si on les utilisait dans chacune des cellules.
Attends, mais donc tu dis, ta cellule de peau à son noyau
Oui.
va être la même que n'importe quelle autre cellule de n'importe quel autre organe
Tout à fait.
de notre corps.
De ton corps.
Des autres corps aussi, mais ça va pas être les mêmes valeurs, mettons, placées aux mêmes endroits.
Ben, c'est ça, c'est qu'au final, il y a eu une différenciation alors qu'on était des embryons. Les cellules se sont spécialisées, sont devenues quelque chose de plus précis que juste un noyau avec tout l'ADN. Ils sont devenus des cellules de peau, puis ils ne peuvent plus revenir en arrière. Donc, ils ont trouvé leur chemin de destin, de destin cellulaire, souvent on appelle ça.
Okay.
Donc, en fait, la transcriptomique nous permet de savoir, en fait, différencier des cellules qui sont complètement différentes par leur nature, mais qui ne diffèrent pas par leur code génétique, là. Ils sont complètement pareils. C'est juste qu'ils n'expriment pas des choses à la même fréquence, à la même intensité. Peut-être que ce n'est pas du tout les mêmes gènes qui sont exprimés. En fait, c'est sûr que ce ne l'est pas. Mais là, bien sûr, je parle de tissus, par exemple, la peau, les os, le sang,
Mais quand
les
tu
yeux.
parles...
Mais si on parle de, par exemple, maladie, pour qu'est-ce qui différencie une cellule de sang globule blanc qui va être sain versus une cellule de globule blanc qui va être atteinte d'un cancer? C'est ça tout l'enjeu parce que ce sont des cellules très semblables, sauf qu'il y en a
Ouais.
une qui est déréglée, puis il y en a une qui ne l'est pas. Donc en transcriptomique, c'est très facile à détecter qu'une cellule n'est plus saine. seulement par son profil d'expression. Puis ce profil d'expression-là est très, c'est très complexe à obtenir, mais c'est essentiellement la même manière, c'est la même procédure qu'on ferait pour séquencer un génome, c'est-à-dire de juste récupérer toute l'information que contient son noyau. Sauf qu'on le fait avec une précision accrue, c'est-à-dire qu'au lieu de s'intéresser à l'ADN, on s'intéresse à la molécule intermédiaire entre l'ADN et les protéines, l'expression, on s'intéresse à l'ARN. Donc, le niveau, le nombre de copies d'un gène. C'est essentiellement ça qu'on étudie.
OK. Première question. Ouais. À chaque fois que tu parles d'exprimer, ça, c'est toujours en protéines, en créant des protéines, right?
Voilà, c'est ce qui est l'effecteur, en fait. Les protéines sont les moteurs dans nos cellules. C'est celles qui composent les parois, c'est celles qui font les... ce sont des petites machines, en fait, les protéines.
Mais donc, une protéine n'a pas de... J'essaie de... Tu sais, en ordre de grandeur, dans le fond. Ouais. C'est pas... La protéine, c'est pas un subset d'une cellule. C'est une chose complètement différente. Ça a... Tu sais...
Ben, en fait, une cellule, on peut la voir comme une espèce de mini-ville. Où à l'intérieur, t'as le haut commandement qui est le noyau, dans lequel il y a l'information. C'est là que les ordres partent.
C'est que t'es pédagogique, man. Ouais. C'est quand même impressionnant.
Mais bien sûr qu'il faut rendre ça simple dans un sens, absolument. Parce que sinon, on se perd dans la complexité.
Oh, ouais.
Très rapidement, en biologie, c'est notre bottleneck, c'est vraiment la complexité. Il y a beaucoup de choses qui se passent.
Okay, mais donc, ta ville.
Donc, on a la ville, c'est la cellule. Le noyau, c'est le haut commandement. Puis finalement, on a des sous-unités qui sont des organelles, qu'on appelle, qui vont remplir une fonction, une tâche. La mitochondrie, elle s'occupe de fournir le gaz. Elle donne l'énergie à la cellule par la respiration cellulaire. On va avoir l'appareil de Golgi qui s'occupe de l'exportation des différentes protéines.
Un retour en science de genre secondaire 2.
Puis en fait, finalement, les protéines sont comme les effecteurs. C'est les voitures, c'est les grues, c'est la construction, c'est les humains, c'est
qui mais travaillent. Mais ils sortent de la cellule ou non?
Ben, il y en a qui peuvent sortir, mais en général, ils travaillent au sein même de la cellule pour la faire fonctionner.
OK, moi je pensais que c'était... OK, je pensais que la cellule... Elle sortait... OK.
Ben, en fait, ça peut arriver comme les cellules sécrétrices qui vont sécréter des hormones pour le reste du corps, par exemple. Ben, elles, oui, les protéines vont sortir. Mais la plupart vont accomplir des fonctions au sein même de la cellule pour la garder en vie. Okay. C'est ça qui la tient en santé. Puis en fait, moi, j'aime bien voir l'ADN, l'ARN, protéine, tout ça, c'est comme une chaîne de montage où t'aurais le template, qui est l'ADN, qui est le modèle, le patron.
Ouais.
Puis vient le moment où on va prendre des copies de ce patron-là, puis on va en faire plusieurs dizaines, centaines de copies par seconde pour avoir, pour en fait... plus tard les transformer en protéines qui sont ta voiture, qui sont ton produit final.
Genre. OK, donc l'ADN, c'est read-only.
Ouais.
Elle va jamais changer.
Elle va jamais changer.
Puis ces copies-là se font continuellement ou c'est des certains moments que...
Continuellement. Elles se font continuellement, bien sûr, selon leur nature. On veut pas plein de copies d'un gène qu'on veut pas, là. Ouais. On va même pas du tout en avoir.
Donc, ça nous amène à... me semble, dans l'ADN, oui, il y a la formule pour créer ça, que l'ARN, mais il y a aussi la recette, right?
C'est ça.
Puis quand il faut la faire, puis ça aussi, c'est dans l'ADN, qui va préciser à quel moment il faut faire celle-là, puis celle-là.
C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est ce qu'on essaie de déterminer.
Mm.
Le quand, comment, où, en biologie, c'est là la grosse question. C'est pourquoi, à ce moment-ci, on en a fait plus de copies? Pourquoi? Et c'est là qu'on rentre dans des questions comme l'épigénétique, c'est-à-dire ce qui dépasse le génétique, ce qui est hérité des parents, de l'environnement, qui a rien à voir avec la séquence exacte de tes bases dans ton ADN. C'est des choses, c'est l'input extérieur, finalement, qui change ça et qui change l'état de ta cellule.
Parce que c'est ça, parce que dépendant de ton environnement, tes cellules vont produire d'autres choses.
Voilà.
Puis là, c'est weird parce que ça lit plus la recette puis les...
Ça la lit de façon différente. C'est comme si on l'interprétait d'une différente manière.
Puis ça, c'est un des mystères encore. C'est bien pas de...
Mais en fait, c'est la question la plus intéressante pour moi en biochimie et en biologie moléculaire. C'est quel est l'apport de l'environnement sur ta génétique? C'est pour moi la question la, plus primordial.
Puis après, il faut que tu la breakdown en domaine spécifique parce qu'il n'y a pas de réponse générale, évidemment.
C'est sûr. C'est
mais donc, toi, dans ta... toi, c'est ça que tu fais un peu dans ta recherche?
Oui, tout à fait. Tous les gens qui travaillent dans mon laboratoire, de près ou de loin, vont travailler avec ce genre d'interaction-là entre l'environnement sur des cellules.
OK.
Est-ce que ça va déterminer qu'une cellule va devenir cancéreuse ou pas? Est-ce que cette cellule cancéreuse va devenir très maligne ou elle va rester à un état plutôt bénin qui va être juste rejeté par la cellule? Il y a des manières de le déterminer parce que c'est écrit, parce qu'on peut le mesurer, toutes ces valeurs-là, grâce à ce qu'on appelle la transcriptomique, qui est juste de mesurer l'expression instantanée de gènes dans une cellule.
Mais donc, si c'était seulement de ce qui était écrit sur l'ADN, ouais, le problème serait déjà un bon morceau plus facile.
Ah oui.
Ça serait réglé, plus ou moins?
Disons que ça serait plus trivial, parce qu'on aurait juste à décrypter une longue séquence de lettres, puis finalement dire, ben, la réponse, tout est là. Donc, on ne va pas chercher plus loin.
Donc, vous êtes capable de lire tout?
Oui.
OK.
C'est ça.
Donc, vous avez traduit la langue, là. La langue, vous la parlez, genre?
On pourrait dire ça. On pourrait dire ça. Sauf qu'il reste beaucoup de questions. C'est une question d'interaction, en fait, entre les choses. Un gène qui va être exprimé à un temps donné va influencer l'expression de son voisin. Puis celui-ci va influencer l'expression d'une dizaine d'autres.
Ouais.
Ces dizaines d'autres-là vont revenir au premier gène. Donc c'est
un peu comme les neurones dans le cerveau, right?
C'est ça.
Il y a juste un influence l'autre, mais là c'est exponentiel, les différences, puis les impacts.
Ça donne une idée le niveau de complexité. Puis là, je parle de 22 000 gènes chez l'humain. C'est énormément d'interactions possibles entre deux gènes, deux protéines, deux ARN même.
Ouais.
Donc, à chaque 5 ans, on découvre finalement un nouveau morceau qu'on n'avait pas vu, puis qui dit « Ah, peut-être que finalement, ça peut aussi influencer. »
Qu'est-ce qu'un nouveau morceau dans les 22 000?
Oui, par exemple, pendant longtemps, on se disait que tout ce qui était les 22 000 gènes dont je vous parle, on a plusieurs milliards de bases là, dans notre ADN, mais il n'y en a que 2% de toute cette masse d'informations, il n'y en a que 2% qui code pour quelque chose qu'on connaît. Ça veut dire qu'on sait que ça va être une protéine X, qu'on lui a donné un nom. C'est 2% de tout le matériel. Si, par exemple, si on mettait l'ADN comme étant une autoroute, c'est comme si on avait un petit tronçon qui était important. Le reste, c'est on n'a aucune idée de ce que ça fait.
Attends, mais tantôt, je pensais que tu disais que vous l'aviez réglé.
Ben, on sait les lettres qui sont dedans.
Ah, OK.
Mais on ne sait pas du tout ce que ça fait.
Ah, je vois.
Donc, on a un 2% qui est très bien caractérisé puis on sait très bien...
Ça, c'est quoi, mettons, donne des exemples.
Ben, c'est des gènes, tu sais, BRCA2 qui détermine si tu vas avoir cancer du sein qui est un précurseur. T'as des gènes qui interviennent dans la respiration cellulaire qui vont être exprimés, qui des protéines très importantes qu'on connaît très bien, leur fonction et tout. Ce sont des gènes. Des gènes, par exemple, de couleur de yeux. Finalement, on en connaît 11. Là. Puis c'est comment ils sont stackés ensemble qui vont faire que tu t'exprimes telle couleur de
des yeux. Par contre, avec une probabilité ou une certitude?
Ah, c'est toujours une probabilité, souvent. Okay. Là, c'est très statistique, au final, ces choses-là. Mais par contre, on a le 98% qui est du non-codant, qu'on disait. Puis dans les débuts des années 2000, on appelait ça du junk DNA.
OK.
Parce que c'était pour la plupart des scientifiques, c'est du rien du tout.
Ça servait à rien.
C'est de l'héritage d'évolution.
Ce qui est douteux comme hypothèse à prendre, que 98% de l'ADN sert à rien. Là.
Sert à rien.
Comme Darwin, il savait ce qu'il faisait. Là, je veux
voilà, dire. Il doit avoir quelque chose là-dedans qui veut dire quelque chose. Puis c'est là justement, c'est de fouiller cette espèce de black matter d'ADN qui permet de faire des avancées, des petites percées. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, on a découvert l'existence des micro-ARN, qui sont des minuscules parties d'ARN. Ça ressemble à de l'ADN, mais en fait, c'est juste des petits morceaux qui ne sont pas des protéines, donc qui ne sont pas très complexes dans leur activité chimique, mais qui ont un rôle super important dans l'expression de d'autres gènes ou dans l'inhibition de d'autres gènes.
Surtout. Qui ont été copiés de l'ADN?
Puis c'est ça, ils ont un template. Ils ont leur template d'ADN, mais c'est c'est rien du tout. Pour nous, avant ça, on se disait, ça fait rien. C'est complètement flottant dans la cellule. C'est là un peu comme spectateur. Et non, ça joue un rôle. Ils ont vraiment un rôle très important d'effecteur puis dans la régulation des cancers. Donc maintenant, on va découvrir dans ton junk DNA 4, 5 petites séquences qui vont être exprimées. Puis finalement, on va peut-être pouvoir déterminer que tu auras un cancer à cause de ça.
Mais tu viens de rajouter la complexité du problème de genre quelques degrés, là,
Ben
parce que là, c'est
oui.
des petites affaires flottantes, puis encore une fois, c'est
Puis
exponentiel.
qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y en a pas d'autres de cachés encore plus?
Ouais.
Donc on est dans un océan d'inconnus, là, en génétique. Puis c'est là que j'imagine que tu as un peu l'intuition que l'informatique peut beaucoup aider là-dedans.
Ben, ouais.
Parce qu'on a un nombre de données astronomiques,
Ouais.
finalement, à traiter. Puis c'est là que vient l'intelligence artificielle.
Ouais.
Donc ça nous amène à ça tranquillement. Puis mon travail au laboratoire, ça va être d'inclure des nouvelles techniques d'apprentissage machine
Ouais.
afin de pouvoir décoder.
Ou accélérer plus vite.
Ouais.
Mais donc, tu me faisais penser, parce que tantôt, tu disais le domaine existe depuis une quinzaine d'années, mais je me souviens aussi, quand on parlait avec des collègues, qui disaient que clairement que le laboratoire est derrière, surtout avec les nouvelles. Voyons. Comment dire, d'utiliser les nouvelles technologies pour résoudre ces problèmes-là, comme l'intelligence artificielle.
Ouais.
T'sais, vous disiez tous que c'était plus ou moins archaïque en termes des types de technologies qu'ils utilisaient, mais comment ça, si ça fait si longtemps que ça, qu'ils n'ont pas. Parce qu'il n'y avait pas de gars comme toi qui a
Ben,
décidé de mélanger les deux.
alors, je suis vraiment pas le premier. En fait, il y a beaucoup de précurseurs là, qui commencent à. Et qui ont eu la vision d'utiliser toujours des nouvelles méthodes.
Ouais.
Mais ce qu'il faut dire, c'est que tout ce que je dis là, tout ce que j'ai affirmé, ça vient de recherches scientifiques qui ont finalement été revues par les pairs, qui ont
Ouais.
été acceptées. Puis finalement, en science, c'est comme ça que ça fonctionne. On apporte des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes, puis elles vont pas être. Tu sais, on prend pas ça comme du cash tout de suite,
Tout le
là.
monde essaie de prouver que t'as pas raison,
Exact.
puis si ça marche, ça marche.
Puis au final, il va falloir que tu l'aies bâché à peu près 10 fois de suite pour finalement que ça soit accepté dans la communauté.
Right.
C'est pour ça que ça bouge un peu lentement.
Mais c'est une bonne leçon aussi surtout de nos jours, tu sais, de peer review. De nos jours, que tout le monde lance des études tout le temps, comme ci, comme ça. C'est l'étape, c'est ça. C'est le peer review. Si t'as pas passé ce test-là, ça vaut plus ou moins rien.
Ouais, ça va être plutôt difficile à faire accepter ton point, là.
Okay. Puis en termes d'études, y a-tu des techniques qui sont comme attendues, que si tu présentes un papier puis que tu as utilisé certaines techniques, le monde va genre rouler les yeux un peu et faire comme ouais, mais t'as utilisé ça?
Tout à fait. Il y a toujours des trucs qui sont plus à la mode, qui sont plus sexy.
Moi, je
C'est
pense au
sûr.
double placebo. Tu sais, c'est genre le chercheur sait pas qu'est-ce qu'il fait, puis le tout personne sait qu'est-ce qu'il fait, ou c'est, tu sais, c'est des puis que tout le monde se dit genre bon, ok, ben là il y a pas eu de biais ou de quoi que ce soit.
Ben, on essaye toujours d'avoir une méthodologie rigoureuse, puis souvent, ce qu'on va faire tout simplement, c'est prendre la méthodologie du labo voisin, parce qu'on sait qu'il fait. Tel labo le fait en Europe,
Ouais.
donc finalement, si tu le fais, ben ça devrait te passer, parce que tout le monde fait ça.
Ok.
Donc ça, c'est la pensée plutôt conservatrice, là. En termes de méthode scientifique, c'est qu'on prend toujours ce qui est fait chez le voisin.
Ouais.
Par exemple, à Montréal, l'avantage qu'on a, c'est que on est juste à côté du MILA. Tu sais, c'est eux, nos voisins, là.
Ouais.
Eux ont écrit sur l'intelligence artificielle. Ce sont eux qui l'ont mis sur la map, avec d'autres. Mais donc, on peut se baser facilement sur les travaux en intelligence artificielle qui ont été faits chez nos voisins en informatique.
Ouais.
Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'on a un partage de connaissances qui est super rapide dans notre cas entre la biologie puis l'intelligence artificielle à Montréal.
Puis est-ce qu'il y a des liens entre le lab entre les deux labs dans le fond?
Oui, il y en a souvent. Donc il y a des étudiants qui vont être co-dirigés par un chercheur en biologie et par un chercheur en informatique. Donc les deux vont avoir leur input finalement sur les recherches qui sont faites.
Ouais.
Je trouve que c'est très sain, finalement, dans un milieu de recherche, d'avoir. Là, on parle souvent de ça, ce qui est à la mode, c'est l'interdisciplinarité, là.
Ouais.
On est en plein dedans, là. Bien sûr, quand on parle de bioinformatique, on est dans tout à fait ce domaine-là. Donc,
le mot le dit, là. Ouais.
Ouais, c'est de plugger deux choses ensemble, ouais. Puis finalement, tu as un nouveau domaine de recherche. Mais c'est intéressant parce que finalement, tu as deux approches, deux angles de vision sur des problèmes. Ça peut aussi faire des clashs, là.
C'est sûr.
Parce que des fois, les bioinformaticiens ne savent plus à qui s'adresser. Est-ce qu'on s'adresse à des biologistes qui comprennent rien à l'informatique ou si on s'adresse aux informaticiens qui absolument ont aucun intérêt à la biologie? Eux, ils veulent juste voir des chiffres défiler, là.
Ouais.
Pour eux, c'est que ça soit des moteurs d'avion, des données Facebook ou du...
Ils s'en foutent.
Ah ouais. Pour eux, tant que c'est des données, hein,
ouais.
C'est, finalement, tant que la recherche est bien faite puis que ta base matheuse est bien faite, ils sont très contents. Par contre, ça pourrait être de la biologie, comme ça pourrait être autre chose. Donc, c'est difficile de plaire aux deux domaines en même temps.
Ouais. Puis j'imagine, il est peut-être un peu trop tôt, mais est-ce qu'il y a eu des avancées sérieuses de leverage, dans le fond, l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes peut-être de transcriptomique comme toi ou autre en bio-info?
Oui, ça commence. Disons qu'on est encore au balbutiement. Il y a beaucoup de chemin à paver parce qu'en fait, là, on est à l'étape juste de prouver que l'intelligence artificielle peut être utilisée en biologie, tout ouais. Simplement. Qu'il y a assez de puissance de données, finalement, les données qu'on a, pour pouvoir avoir des résultats intéressants avec l'intelligence artificielle, parce que c'est pas trivial à prouver. Il y a des gens qui n'y croient pas, il y a des gens qui ne pensent pas que ça puisse être applicable.
Mais est-ce que c'est mon... Me semble que ce serait des gens plus old school dans le domaine de la biologie qui se sentent se faire mettre de côté, j'imagine.
C'est sûr, mais il faut pas qu'ils le voient comme ça parce que...
Non, exact, mais c'est pas de ta faute non plus, comme on va pas arrêter sûr. Parce que...
Ben voilà.
Suis le cours au Mila, tu sais, je sais pas.
Oui, oui, c'est ça, tu sais, arrive en ville. Non, mais bien sûr, mais c'est que ce domaine-là va finalement se greffer à beaucoup de domaines en sciences. C'est sûr que la science du futur va se faire avec l'intelligence artificielle, j'en suis convaincu, parce que c'est juste beaucoup... Beaucoup de puissance de calcul, beaucoup de puissance de prédiction qu'on gagne
ouais.
Avec ça. Mais là, j'aimerais juste toucher, en fait, le point le plus sensible, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle en biologie, c'est la question des données. Les données biologiques sont ouais. Bruitées. Elles sont extrêmement floues. Et on approxime beaucoup de choses. On prend une mesure qui est un proxy de telle vraie valeur biologique qui est elle-même influencée par un paquet d'autres.
Donc, je vais donner un exemple, mettons.
Dans mon laboratoire, on a quelqu'un qui travaille, une de mes collègues qui travaille sur des courbes de dose-réponse. C'est un protocole de recherche qui consiste tout simplement à administrer un médicament sur une cellule, puis de voir la réponse de la cellule, okay. Et de le mesurer, juste par la croissance, puis finalement, tu finis par faire une courbe avec ça. Par contre, c'est très aléatoire, finalement. D'une expérience à l'autre, on va avoir des nuages de points qui ne vont pas du tout se ressembler.
Donc, corrélation zéro.
Corrélation un peu difficile à voir.
Ouais.
Donc, ça prend des méthodes statistiques de plus en plus raffinées pour finalement avoir un vrai signal. Et puis, c'est un deuil que le biologiste, le biostatisticien doit faire. C'est de dire, mes données ne seront peut-être pas de la qualité que je veux. Mais il faut que j'en fasse quelque chose. Tant que c'est possible, bien sûr. Mais donc, les courbes de dose-réponse, bien sûr, des profils transcriptomiques, il n'y a rien de plus... plus variable que ça. Moi, j'étudie beaucoup la variabilité entre les expériences de transcriptomique. C'est un des points principaux de mon sujet de doctorat.
Ouais.
C'est de comment sommes-nous capables de retirer un signal sur des profils de 22 000 gènes qui sont jamais pareils d'une expérience à l'autre, finalement. Est-ce qu'il y a quelque chose de récurrent? Est-ce qu'il y a un message récurrent? Est-ce qu'il y a une récurrence au sein même des gènes? Qui peut être récupéré finalement.
D'où l'intérêt des jumeaux.
Oui.
Parce que là, tu as deux presque pareils.
Oui.
Mais c'est encore quand même juste deux. Mais ouais. C'est mieux que un.
Ça, c'est très intéressant, en fait, d'étudier les jumeaux parce que.
C'est malade. Je veux dire, les jumeaux doivent tellement se sentir bizarres, tu sais, t'entends ça, genre, waouh, des jumeaux.
Pour tous les jumeaux qui nous écoutent,
shout out, ouais.
Shout out. En fait, oui, c'est que ça, on a typiquement vraiment l'exemple parfait de la génétique qui n'explique pas tout
Ouais.
chez les jumeaux.
J'avoue, c'est le ground case pour dire que l'environnement affecte
Ben
deux
oui.
jumeaux pareils qui finissent différents.
Qui
Aussi
finissent
simple.
complètement, oui. Qui pourront même avoir des tailles différentes, des
Ouais.
poids différents. Ça veut dire qu'ils se sont développés de façon complètement opposée. Bien sûr, il y a l'environnement familial qui influence beaucoup. Donc, c'est vraiment intéressant de voir vraiment concrètement l'influence de l'environnement sur des jumeaux. Donc, des gens qui ont exactement le même bagage
Ouais.
génétique, là, mot
Parce
pour mot.
que, en fait, ce serait assez facile si l'éthique n'existait pas de faire des avancées. Tu sais, tu mets une perce comme on fait avec les rats. Tu les mets dans une cage, mettons, puis tu contrôles pour tout. Puis là, après, tu es capable de le dire. Mais évidemment, ça se fait pas. Il n'y avait pas un temps, il y a plusieurs années, où c'était un peu plus le Wild West, puis il y a eu des affaires un peu croches qui se sont faites en Sibérie ou quelque chose de même. Non, c'est ça?
Ben, couramment, là, en ce moment, en Chine, je vois sortir des papiers puis des recherches qui frôlent vraiment la criminalité, en fait, là.
Ouais, ben il y avait eu le gars qui a édité. Tu sais que finalement, plus personne sait, mais tu veux-tu l'expliquer vite? Parce que je suis pas sûr concrètement, qu'est-ce qu'il a fait qu'il avait pas le droit de faire?
Eh bien, ben lui, en fait, on parle d'un chercheur chinois qui a mis au point, qui a fait le premier genetic editing, c'est-à-dire qui a changé le code génétique d'un être vivant qui est de surcroît un humain.
Mais
Donc, un
quand il était au
embryon.
niveau. Ouais, ok.
Donc, c'est d'un embryon humain, il est allé changer certains gènes
Mais je pense que c'est important de
pour corriger
mentionner,
des
les
traits.
instructions existaient depuis longtemps, mais
Oui.
tous les pays s'étaient entendus pour dire on le fait pas parce
On
que
ne
c'est
le
un
fait
peu
pas.
tout croche.
On ne le fait pas parce que ça brise nos codes éthiques. On ne
Right.
peut pas génétiquement modifier un être humain.
C'est pourquoi ça, mettons, la pensée, si on le pousse un peu?
C'est parce que ça comporte un risque énorme qu'en fait, finalement, on puisse bousiller l'être vivant. J'ai l'impression, en fait, il n'y aurait pas vraiment de raison autre que ça, sinon que. Parce qu'on le fait déjà sur des souris. Des
Right.
souris transgéniques, j'en ai vu souvent, là.
Ouais.
C'est des souris qu'on a littéralement changé le code génétique, puis qui sont, par exemple, qui vont développer un cancer après 2 semaines. On le sait,
Toujours à
c'est
l'état du
programmé,
fœtus.
là. Oui, ça va être fait avec, tu sais ça, on va avoir changé rajouter des gènes, enlever des gènes. On va les avoir complètement altérés. Donc, on le fait déjà chez des mammifères. Mais chez l'humain, on ne le faisait pas. On n'y touche pas. Puis disons que ça nous enseigne aussi beaucoup sur l'éthique de recherche en Chine, qui est vraiment différente, en fait. Je dirais pas que c'est foncièrement mal ou evil.
Ouais.
C'est juste qu'ils ont une manière différente d'approcher l'innovation technologique. Mais ça se peut que ça leur cause des problèmes, bien sûr, de droits humains, là.
Ouais.
Ils vont faire face à un mur, là.
Mais
Donc.
surtout en essayant, parce que tu sais, en tant que pays, ils essaient d'intégrer tous ces organes internationaux-là, comme les Nations Unies, le World Trade. Mais après, c'est il y a comme faut que tu suives les règles aussi, tu sais, tu
Faut
peux pas
suivre les
avoir
règles.
tout. Mais si je me trompe pas, ce bonhomme-là avait pas
Ouais.
été sanctionné par le pays. Même
Je ne
le
pense pas.
gouvernement a fait comme wow.
Par contre, ses pairs en Chine n'avaient pas reconnu son étude. Donc lui, il n'a pas
OK.
eu la reconnaissance de son travail scientifique. Il n'a pas eu de réprimande criminelle. Par contre, on n'a pas reconnu son travail. Parce que, en fait, c'était pas assez appuyé par des faits. Finalement, en fait, ce qui est arrivé, pour finir, en fait, sur cette histoire-là, il a utilisé le système CRISPR-Cas, qui est vraiment
Ah,
la
je voulais en
mode.
parler.
Donc, CRISPR-Cas, qui est vraiment la méthode up-to-date d'éditer un génome. Et il l'a fait pour le VIH. Donc, il a essayé de rajouter un gène qui, en fait, a enlevé un gène qui favorisait la. La bon,
Vas-y avec l'anglicisme,
ouais,
là.
mais en fait, c'est ça, c'est parce que c'est un gène qui réprime le VIH. Donc, finalement, il a réussi à engendrer une répression du VIH chez l'embryon, alors que l'embryon n'avait pas contracté le virus. Donc, en fait, on lui donnait une espèce de prédisposition à ne pas contracter la maladie, parce que son père était séropositif.
Okay.
Donc, mais bien sûr, ça se transmet pas comme ça, là. Le ouais. VIH. Donc, le petit n'était pas atteint.
S'il l'avait pas dans le... Right.
Donc, il y avait comme pas de raison de le faire à la base.
Si la mère l'avait, c'était une autre chose, par contre.
J'ai pas assez lu sur le, okay. sur le virus comme tel. Peut-être que oui, peut-être que ça aurait mis en danger, disons, l'enfant.
Ouais.
Mais donc là, ce qu'on voulait prouver, c'est qu'il était possible de... Ben de sécuriser la destinée d'un embryon grâce à des manipulations génétiques, ce qui est, je pense, vraiment vers là où on s'en va. Il va y avoir des éditions génétiques, peut-être dans 50 ans, que l'appareil judiciaire va s'adapter, puis qu'on va être capable d'endiguer certaines maladies génétiques qui sont, par exemple, mortelles. Il y a des dystrophies musculaires qui sont causées par un seul gène.
Puis si on le sait, 100%, il n'y a aucun autre, c'est un,
c'est ça,
on
c'est...
le connaît.
C'est ce qu'on appelle la génétique mendélienne, là, qui date de Gregor Mendel, lui avait découvert la génétique sur des pois verts. Il avait jamais entendu parler d'ADN dans sa vie.
Ouais.
Mais il s'est dit, il me semble qu'en croisant certaines plantes, j'acquiert des caractères.
Ouais.
Mais ça, c'était des traits qui étaient déterminés par juste une lettre, genre un gène qui est de telle forme. Donc, c'était très simple à voir. Il y a des maladies comme ça qui sont causées par un
seul
gène.
Mais même, comme le pois vert, je pourrais comprendre en m'imaginant que leur profil génétique est plus simple, mais les humains avec 22 000 petits bâtons, comme il y en a quand même des choses qui sont déterminées par un seul.
Oui.
Wow.
Ouais, il y a des maladies célèbres en génétique, comme l'anémie falciforme, où en fait, une seule lettre dans un seul gène va faire que tu contractes un type d'anémie.
Puis ça, est-ce que ce serait légal d'aller avec CRISPR puis le couper?
Pour moi, selon moi, je trouverais que ce serait pertinent de le faire. Parce qu'on sauverait, on améliorerait, on serait en train de faire de la médecine rendue là.
Puis on sait à 100%, ça a été peer-reviewed, il n'y a pas d'effets collatéraux. C'est...
Ben oui, parce qu'on sait très bien l'effet que la mutation donne. Puis aussi le fait que de l'enlever, cette mutation-là, va pas causer d'effet secondaire. Mais en fait, c'est le traitement. C'est comme faire une chirurgie. C'est sûr que là, tu es en train d'altérer.
C'est littéralement une chirurgie, en fait. Tu enlèves un morceau du corps humain.
On s'en va vers la chirurgie génétique.
Mais tu dis, donc, tu serais d'accord, mais même dans ce cas-là, aujourd'hui, mettons au Canada, c'est pas légal ou c'est...
C'est tout à fait illégal.
Tout à fait illégal.
Ouais. On n'a pas le droit d'altérer un embryon humain.
Puis ça date de lois qui ont été faites avant que cet outil CRISPR-là existe, ou ça a été fait comme quand ils l'ont sorti, puis là, ils ont fait comme « Ah non, wow, wow, wow! »
Non, on n'a pas eu le phénomène de genre « On met au point quelque chose, puis on back off. »
Right.
On n'a jamais eu ça. Canada, disons qu'a toujours été assez sacoche en termes de bioéthique, depuis une trentaine d'années, là. Mais en fait, ça a été surtout après Dolly the Sheep, donc quand on a cloné
ouais.
le premier mammifère en 97, je pense. Donc finalement, on a cloné un mammifère.
Ça, le Canada?
C'est en Angleterre, je pense.
Okay.
Donc on ou en Australie. Finalement, on a cloné, l'humanité
le
a
monde,
cloné,
ouais,
a
ça.
Réussi à cloner un mammifère.
Ouais.
Puis ça a mis beaucoup, ça a fait une onde de choc. Là. On s'est dit... Ben là, on est rendu à cloner des humains. Je pourrais-tu me cloner moi-même?
J'en veux trois.
C'est ça, je veux trois clones de moi-même. Puis finalement, là, récemment, on a réussi à cloner des chimpanzés.
Donc, qui est plus difficile?
Ben, c'était des... c'est des primates. Donc, on est toujours plus près de l'humain, le clonage
Comment
humain.
Comment près?
On est... disons qu'on pourrait le faire demain matin.
Là. Ah ouais. Puis là, tu serais prêt. Est-ce que selon toi, moi, je serais pas... comme tu penses vraiment que ça s'est pas fait sur la Terre? Ever? J'ai de la misère à... Il y a des coins où il n'y a pas grande lumière, hein, tu sais?
Oui.
Tu préfères ça vite, vite. Penses-tu? Qu'est-ce que t'en penses?
Peut-être que ça serait fait, mais ça serait joué à Frankenstein.
Ça nécessite une quantité de ressources phénoménale ou même pas tant que ça?
Je pense que ça demande des ressources modérées. Ça demande des ressources, disons... ça demanderait à peu près les ressources qu'aurait une clinique de fécondité.
Wow!
À peu près. Mais ça serait possible. Mais la chose, en fait, qui est limitante, c'est que ça prend une mère. Les humains naissent d'une mère. C'est la seule manière qu'on peut...
Fait que c'est in vitro, dans le fond. Tu crées le fœtus, puis tu...
Tu fais ton clonage in vitro, mais tu as toujours besoin de l'utérus de la mère pour avoir un enfant.
Donc, fuck. Mais donc, techniquement, c'est pas un clone comme on le voit, mettons, dans les films, parce qu'il y a quand même une mère.
Mais oui.
Puis après, les gènes ont été faits l'autre moitié.
Ça serait ton jumeau, disons. Si on décidait de faire un clone de JC, il faudrait qu'il parte de zéro, là. Il ne serait pas adulte, là. Il faudrait qu'il reparte ça serait un bébé.
Right.
Puis là, après tout ce qu'on vient de parler, t'as dans l'idée qu'il ne te ressemblera pas du tout, en fait, cet enfant-là. Il va être né en 2018. Il
Puis
va
la
avoir
moitié.
grandi avec d'autres inputs dans l'environnement, peut-être une mère différente. Ça sera pas du tout le même être humain. En aucun cas. Il va
OK.
juste avoir absolument le même bagage génétique.
Donc, mais attends. Donc son profil génétique va être le même que moi ou il va se mélanger avec celui de la mère porteuse?
Non, non. Il va pas avoir du tout de mélange génétique avec la mère.
Donc, si j'ai les yeux bleus, il va avoir les yeux bleus à 100%.
Pas mal sûr. Pas
À moins
mal
qu'il y ait
sûr.
un. Dans le fond, ce serait un X-Men, là. Un.
Un mutant.
Exact.
Ça
Une
sera
mutation.
une mutation ponctuelle où il pourrait arriver 1 million de choses. Puis moi, en fait, c'est qu'on se rend compte, il y a beaucoup d'études qui portent sur le fait que le développement dans l'utérus, puis ensuite les premiers mois de vie, vont beaucoup influencer ben, l'expression génétique, finalement. Donc la mère a une importance capitale, finalement, dans le développement de l'embryon, puis dans le early development de l'enfant, là.
Donc, tu as la plasticité du cerveau, mais tu as la plasticité des gènes aussi.
Ouais, on pourrait parler de plasticité des gènes, finalement. Donc, il se transmet d'un parent à l'enfant automatiquement. C'est l'épigénétique, c'est l'apport, justement, de l'environnement, de la biologie, qui est malléable, qui est très plastique, dans un sens. Donc, pour moi, le clonage humain, c'est tout à fait inutile. C'est une fantaisie
Right.
qui ne sert à rien. Il y aurait un avantage pour ça, c'est pour les organes.
Mais là, tu rentres
Puis,
dans l'éthique, hein, s'il vous
ben
plaît.
oui. Par contre, moi, j'aurais aucun problème éthique à faire du développement d'organes dans de la gélose avec
Ouais,
des
c'est déjà
sucres.
mieux.
On parle de choses inanimées, là.
Puis
Un
ça se fait
organe,
aussi, c'est sûr.
ben oui, là,
C'est
maintenant, il y a
sûr.
des greffes de peau qui se font avec de la peau grandie
Wow.
en laboratoire, puis finalement, on greffe de la peau. Moi, je trouve ça génial, cette manière de traiter l'humain avec des tissus qui sont biologiques, là.
Ouais.
Il n'y a rien d'artificiel. Ben, c'est artificiel, c'est grandi en laboratoire, ça reste du matériel humanoïde,
Ouais.
Homo sapiens, là. Pour moi, j'aurais aucun problème à faire ça, faire grandir un cœur artificiel à
Ben,
partir
puis je me
de
dis
cellules
même
souches.
avec l'avènement des viandes, tu sais, la viande en labo, là, ben je
Ouais.
veux dire, c'est ça, c'est faire du tissu. Fait que
Ouais.
j'imagine qu'ils sont capables de faire un steak de vache dans un labo, ils sont capables de faire un cœur, tu sais, c'est un steak roulé sur lui-même, là,
C'est ça.
finalement.
Ben.
Ouais, non, un petit peu simplifié, mais bon.
C'est un stretch, mais ouais, c'est atrocement plus complexe de faire grandir un organe qui va être fonctionnel, qui va être accepté par l'organisme hôte aussi. Parce qu'il y
OK.
a toute cette question-là. Quand on greffe, ben on introduit un corps étranger.
Qui viennent
Donc,
d'une personne ou qui viennent... Ouais, c'est ça.
de toute façon, il y a un risque. Donc, le fait d'avoir un clonage, donc d'avoir le même bagage génétique, c'est sûr que ça contribue à ce que le corps accepte mieux un organe. Donc là, je vois une belle opportunité pour le clonage pour ça. Par contre, des fantaisies comme cloner un être humain, je trouve ça complètement inutile. C'est une perte de ressources, c'est une perte d'énergie, tout à fait.
Voilà, c'est dit.
Ouais, c'est mon
Shit.
avis, mais
OK.
c'est pour ça aussi que le Canada va jamais finalement financer de telles expériences, puis même le permettre, parce que c'est pas très utile, c'est pas très. Il y a des choses 1 million de fois plus intéressantes à faire
Ben, c'est ce que j'allais dire
en
avec les choses qu'on vient
recherche.
de parler. Je
Ben
veux dire, il y
oui.
a d'autres. Ouais.
Exactement. Mais c'est une avenue possible.
Okay. Il y avait un film exactement ça où il faisait des clones, puis il vivait, puis les clones pensaient qu'ils étaient humains, mais c'était juste pour aller collecter les organes quand la vraie personne.
Ouais,
Mais
The
c'est.
Island.
C'est ça, c'est ça.
Donc,
Ouais.
ouais, puis c'était intéressant parce que je trouvais que c'était très on point sur ce qu'on pourrait faire avec le clonage.
Puis c'était-tu avant-gardiste? Ça fait longtemps que c'est sorti ce
C'était
film-là.
assez avant, je pense que c'est dans les années 2000, mais ouais, on avait déjà cloné Dolly sûrement, puis on avait déjà
Ouais.
apporté les idées du clonage. On a eu très peur du clonage pendant un bout.
Mais
Ça
c'est
a
ce que
été un
j'allais
peu
dire.
comme une
Mais
crise.
c'est ça, puis c'est fou comment. Puis des choses aussi simples que des films peuvent tellement faire basculer l'opinion publique de manière absolument ridicule. Le plus récent exemple, quant à moi, c'est The Martian, Ouais. Qui a juste relancé dans le monde au complet un désir de partir vers Mars. Pourquoi? Parce que fuck it, on a de l'argent à dépenser.
Ouais, parce que c'est Mars, parce que c'est, ça nous fait rêver.
Ouais. Puis tu disais justement dans ces années-là, c'était très le clonage, mais comme c'était populaire, tout le monde en parlait, mais comme ça l'a pris le bord assez vite avec l'intelligence artificielle, avec le gene editing. Mm-hmm. Donc c'est des phases qui passent.
C'est des phases qui passent. Par contre, l'intelligence artificielle, j'espère que ça va être plus qu'une phase, parce que. Ouais. Mais au final, oui, parce qu'il y a beaucoup de ressources qui sont investies là-dedans, puis il y a beaucoup d'avenues possibles, puis on est encore au balbutiement là, ouais. de l'intelligence artificielle, puis on sait que c'est prometteur, on a déjà des résultats. T'sais, contrairement à beaucoup d'avancées de biologie, que ça marche plus ou moins, il y a toujours une espèce d'effet secondaire.
Ouais.
Donc c'est. Tu sais, en IA, on a des résultats prometteurs, positifs.
Puis est-ce que tu penses que étant donné que l'IRIC est à côté du Mila, puis à Montréal,
mm-hmm.
Est-ce qu'ils sont un des leaders en termes d'implémentation dans les labos de recherche en bioinformatique?
Je dirais qu'ils se défendent très bien.
Okay.
On se défend très bien à Montréal parce que, justement, les instituts de recherche, on a le CHUM, le CHU Sainte-Justine, on a l'Institut de cardio, puis finalement l'IRIC, les RCM. Ça, c'est juste comme sur le on top of my head, là, de 5 instituts de recherche qui produisent de la recherche et où on a des labos de bioinformatique qui sont dédiés à ça. Puis on a de la recherche fondamentale, on a de la recherche appliquée aussi. Donc on essaye de carrément... Il y en a qui font de l'imagerie, tu sais. Donc les domaines sont très larges.
Ouais.
On a de la génétique pure, très fondamentale. De la biologie structurale, donc c'est-à-dire de voir la structure de certaines protéines, des molécules, donc c'est très petit. On s'intéresse à ça aussi parce que la structure d'une molécule détermine sa fonction.
Ouais.
C'est primordial. Tu as un gros domaine là-dedans. Tu as de l'analyse de données massives, du big data,
ouais.
du data analysis qui est fait en bioinformatique. On a de l'écologie aussi. À l'IRBV, à l'Institut de recherche en biologie végétale.
C'est où ça? C'est à Montréal?
Oui, c'est dans le parc Maisonneuve, c'est à côté de Jardin botanique.
Ok.
C'est un institut de recherche qui est de botanique, qui est très bien, très beau bâtiment.
Ouais. Puis ils utilisent la bioinfo aussi.
Ils font de la bioinfo. Ils travaillent sur les champignons, ils travaillent sur les plantes. Donc on l'utilise partout, en fait, la bioinformatique. Dès que tu as un ordinateur dans ton labo, il faut que quelqu'un soit capable de faire des choses intelligentes avec, d'analyser tes données.
Ouais. Fait que Montréal, OK. Puis sinon, c'est quoi les autres grandes... Serais-tu les autres grandes villes, mettons, qui sont reconnues pour avoir beaucoup de recherches dans ces domaines-là?
On va avoir la Suisse, qui est toujours la champion, les champions là-dedans, en termes d'outils bioinformatiques qu'ils mettent en ligne. Les Suisses sont très forts là-dedans. On va avoir aussi Baltimore qui est avec l'Institut Johns Hopkins en médecine, en biostatistique, va vraiment être très... En fait, toutes les grandes villes américaines vont être des pôles très importants en bioinformatique. Bien sûr, on pense à la Silicon Valley, tout ce qui est Stanford, Cambridge, bien sûr.
Puis c'est tu mentionnais la Suisse, c'est qui met ça en ligne. Est-ce que c'est un domaine où ça partage, c'est open source?
Oui, beaucoup. Je connais très peu de logiciels bioinformatiques qui sont payants.
Ok.
C'est tout le temps mis à la disposition de la communauté. Ça c'est vraiment un avantage aussi. Donc ça favorise le partage, la collectivité, la coopération entre les labos.
Ouais. Mais aussi, c'est un différent vibe juste parce que ton t'sais, c'est pas à profit. Donc, t'sais, évidemment, pourquoi tu le garderais? Je veux dire, oui, tu peux faire un peu d'argent, mais c'est pas comme c'est pas le vibe, là.
Non. Puis justement, avec le génome humain, la course, c'est voir que l'initiative publique a gagné, finalement, cette course-là. C'est vraiment positif pour nous dire, en fait, que les intérêts financiers n'arrivent pas à côté... ce que l'union de plein de labos sur Terre peuvent faire ensemble.
J'avais pas pensé comme ça à ce moment-là. Fait quoi, ouais, c'était quand même un bon un point dans le temps où ça aurait pu prendre une autre direction, vraiment. Ça, tu faisais référence à quand ils se battaient pour... puis le public a gagné. Si le privé avait gagné, ça aurait peut-être été assez différent.
Ben, eux, en fait, c'est qu'ils auraient peut-être breveté tous les gens. Ils auraient peut-être dit un brevet sur le génome humain, tu sais. Ça veut dire qu'ils auraient été les seuls détenteurs de l'information, ça aurait été terrible.
Ouais.
Dieu seul sait qu'est-ce qui aurait pu se passer finalement avec ça. Bon, c'est sûr que les scientifiques qui travaillaient pour Scélérat avaient une certaine éthique, puis peut-être que ça serait pas arrivé, mais ouais. Disons que dès qu'il y a des intérêts privés qui se mêlent à la biologie, ça peut être dangereux.
Ouais.
Les pharmaceutiques ont un grand poids.
Ouais. Mais là, j'allais dire, par contre, les pharmaceutiques, eux, ils bénéficient grandement de toutes les recherches que vous faites puis que vous mettez en ligne.
Ouais. Ouais. Effectivement.
Pas grand-chose à faire. C'est comme ça.
Ben, en fait, c'est bien parce que finalement, ben, c'est eux qui s'occupent de mettre au point un médicament. Donc, un chercheur ne va jamais tester un médicament sur... Il n'a pas les ressources pour faire ça. Puis il n'a pas l'envie non plus, tu sais. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est mettre les bases, les connaissances qui vont être utilisées après ça pour mettre au point les traitements. C'est sûr que les instituts, disons, plus appliqués, là, comme l'IRIC, ben, on essaie de faire un peu des deux. Donc, faire de la recherche fondamentale, puis après ça, de trouver une avenue de traitement qu'on va tester, parce qu'il y a énormément de médecins qui travaillent à l'IRIC.
Ouais.
On travaille avec des hôpitaux, donc finalement, on peut appliquer déjà nos molécules sur des patients. Puis c'est beau pour ça là, d'avoir un peu des deux. Là. Pas juste sortir du fondamental puis
oublier. Ouais, ouais, mais surtout en termes d'intérêt à monnaie fondamental, t'aimes ça voir que ça bouge. Là,
oui, ça bouge. C'est ça, que ça marche. Puis qu'on ait des avenues aussi intéressantes parce que le cancer, écoute, c'est un fléau. Là. Ça touche tellement de gens. Hein. Puis des gens, tu sais, les leucémies, c'est une maladie qui est très triste, là, qui peut frapper. Un jeune de 20 ans comme un homme de 50 ans qui va mourir après 6 mois. Là. C'est très grave là, comme maladie. Donc, je trouve ça important de mettre les ressources là-dedans. Là.
Ouais.
J'espère cool. que ça va... qu'on va déboucher à des choses. Là.
Ouais. Mm-hmm. Good. Y avait-tu autre chose que tu voulais parler, mentionner?
Ben non, en fait, c'est très agréable de parler de génétique comme ça, de faire connaître un peu ça.
Quantité d'informations était légendaire, j'ai l'impression d'avoir le cerveau en compote, mais c'était le fun. Puis écoute, tu reviendras quand, après avoir, dans 2 ans, 3 ans,
ouais.
Quand tu auras fini ton PhD. Merci d'être venu, Léo, Léonard Sauvé, candidat au doctorat en bioinformatique à l'Université de Montréal, qui travaille avec Sébastien Lemieux à l'IRIC. L'Institut de recherche d'immunologie et cancérologie à Montréal. C'est terminé. Au revoir.
Hey, merci, JC. Salut.